Lors des événements de mai-juin 2004 à Bukavu, plusieurs personnes s'étaient réfugiées dans les pays voisins, notamment au Rwanda. 6 mois après, ils reviennent, ils voudraient retrouver leur poste de travail. Certains agents ont du mal à réintégrer leur travail. À l'OFIDA Bukavu, par exemple, le retour d'un des agents, ancien vérificateur à l'entrepôt, a créé une tension. Au centre du problème, la procédure des réintégrations. Que dit la loi à ce sujet, le droit administratif notamment? Nous entendrons des commentaires juridiques au regard du droit du travail et du droit administratif avec un juriste, M. Idesbald Biabouzé. Mais tout d'abord, faisons le point avec Michel Tirimwami en direct depuis Bukavu. Michel Tirimwami, bonjour.
Bonjour Walter.
Pouvez-vous nous dire d'où est parti le problème sous examen?
Oui Walter, tout est parti de l'OFIDA Sud Kivu quand un ancien agent vérificateur à l'entrepôt de cette société paraétatique qui avait pris refuge au pays voisin est revenu la semaine d'avant la fin de l'année avec l'idée de reprendre le poste qu'il occupait et cela après 8 mois d'absence au travail. Selon les agents de l'OFIDA du dépôt central de la ville, cet agent serait venu même dans l'intention de demander à son remplaçant de procéder à la remise de reprise.
Est-ce qu'on a observé peut-être des manifestations, des réactions quelconques au sein de l'OFIDA à cette occasion?
Oui Walter, les agents ont vivement manifesté leur réaction et c'est par suite des problèmes émanant de diverses allégations dues aux événements de mai et juin dernier. On accuse l'agent d'avoir été, par exemple, impliqué dans le pillage de l'entrepôt, une question qui a suscité des discussions entre les agents et les agents de l'ordre ont dû intervenir pour calmer la situation. Le vérificateur en question a été conduit ce jour-là à la 10e région militaire, puis relâché par après. Maintenant que la situation reste pendante, les questions sur les sorts des réfugiés qui reviennent et qui cherchent à réintégrer leur poste d'attache se posent. Un raisonnement selon lequel la volonté de vouloir intégrer l'agent alors que d'autres auraient été d'abord fait l'objet d'interpellations avant toute chose. Je vous propose d'écouter ces raisonnements.
Oui, exactement, parce qu'il y a les cas d'un premier qui s'appelle Nyarkos, qui était aussi impliqué et qui avait fui avec les autres réfugiés vers le Rwanda. Lui, à son retour, il a été arrêté par la 10e région militaire. Il a passé quelques jours à la 10e région militaire et enfin il a été libéré. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore commencé à travailler. Alors, on ne comprend pas pourquoi les autres peuvent revenir sans être inquiétés. Et puis vouloir reprendre immédiatement leur place, pourquoi faire deux poids, deux mesures, alors que tout le monde témoigne les avoir vus en tenue militaire comme cet autre-là. C'est là aussi quelque chose de révoltant qui pouvait bien pousser les agents à réagir. Oui, il faut que chacun prenne ses responsabilités, qu'on sache qui a fait quoi et que s'il faut sanctionner, il faut sanctionner tout le monde, mais pas les reprendre immédiatement. Mener d'abord l'enquête, s'ils sont militaires, qu'ils restent dans l'armée, s'ils sont civils, bien qu'ils reviennent, tout en respectant la procédure, parce qu'ils ont fait d'ailleurs 8 mois à l'écart, ils n'ont pas travaillé, ils doivent justifier tout ça avant de reprendre le travail.
Voilà, Michel Tirimwami, qu'est-ce qui se dit à propos notamment de cette situation, au-delà de la comparaison évoquée par l'interlocuteur de tout à l'heure?
Walter, les diverses interprétations vont dans le sens d'une enquête qui devrait se faire au préalable. Mais le problème central, c'est la procédure administrative qui doit autoriser la réintégration d'un agent comme celui-là qui revient d'un récent refuge ou de la décision de le démettre des fonctions qu'il occupait. Par exemple, le directeur provincial de l'OFIDA à Bukavu que nous avons contacté nous a dit que le problème prenait plusieurs tournures, surtout politiques, et ça dépassait déjà la simple procédure administrative. Pour M. Jean-Pierre Mupenda, le directeur provincial de l'OFIDA, interrogé ce jour-là, 6 agents sur 19 de l'OFIDA qui étaient en exil sont revenus. Ils n'ont pas repris le travail, a-t-il dit, mais ils se présentent régulièrement au travail.
Mais Michel, là, il se pose donc la question de la procédure administrative à suivre. Qu'est-ce qui est fait au niveau de la hiérarchie administrative? C'est notamment la direction générale à Kinshasa. Est-ce que les agents concernés étaient administrativement en règle avant les événements de mai-juin 2004 à Bukavu?
Voilà la question, et donc ça porte sur la procédure donc en cas de longue absence de l'agent au travail. Administrativement, selon ce qu'on nous a dit, les agents n'étaient pas en règle, mais la question avait déjà une coloration politique. Pour le reste, le directeur de l'OFIDA Sud Kivu nous a annoncé que la question est actuellement sur la table du PDG de l'OFIDA à Kinshasa. Mais d'autres avis affirment que si l'on appliquait, ne fût-ce que les clauses de la convention collective qui régit les agents de services para-étatiques, des agents comme cela seraient d'office déclarés démissionnaires et donc ils n'auraient pas de place. D'où cette interférence déjà déplorée de la politique dans l'administration. Alors, quelques autres points de vue ont dit qu'il y avait un manque criant de volonté politique de faire une enquête sur les responsabilités des présumés suspects dans les vols et pillages commis lors du passage de Laurent Kunda Bukavu. Donc nous aurions voulu la lumière hors de toute passion, la lumière des spécialistes en la matière sur la question et donc sur la limite entre le droit au travail et les règles des procédures administratives dans un cas comme celui-là.
Nous en aurons peut-être l'occasion tout à l'heure. Nous appellerons, je le rappelle aux auditeurs, M. Idesbald Biabouzé, qui est juriste et qui nous apportera son interprétation juridique. Nous sommes en train d'essayer de joindre le PDG de l'OFIDA Kinshasa pour qu'il apporte aussi sa lumière sur ce dossier, tant il est vrai que cette question peut survenir pour d'autres catégories de personnes dans d'autres entreprises para-étatiques ou étatiques. Mais en attendant, Michel, parce que nous parlons d'un cas précis à l'OFIDA, quelle est l'issue de la situation? Quelle pourrait être la solution pour ce cas-là?
En tout cas, tous les regards sont tournés vers Kinshasa. On nous a dit que l'affaire est à l'étude dans une réunion du comité de gestion élargie aux coordinations des territoires unifiés. Et cette réunion se passe à Kinshasa. La question peut être vue sur le plan juridique, car elle peut d'ailleurs apparaître sous d'autres cieux et en d'autres circonstances, ce qui donne le poids à toute la question.
Voilà le problème bien posé. Michel Chiromami, merci beaucoup. Pour M. Idesbald Biabouzé, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Je suis Walter Molondimba-Irindi pour Radio Okapi. Vous êtes juriste, parmi vos spécialités notamment le droit du travail. Vous avez suivi l'exposé du sujet avec mon confrère Michel Chiromami depuis Bukavu. Quelle est la lecture juridique de ce problème, à votre avis?
Merci, monsieur. La nature juridique du problème tient à un problème de réintégration d'un travailleur ou des travailleurs qui ont quitté leur poste, mais aussi qui appellent un autre aspect ou d'autres aspects que nous pourrons débattre par la suite. Alors bon, comme vous avez bien circonscrit la question, il s'agit du retour de certains compatriotes Nyamulenge, de réfugiés, qui sont partis pendant les événements de Jules Moutebousi et Nkunda entre fin mai et juin 2004 vers le Rwanda et qui ont besoin ou bien qui ont envie de retourner travailler. Voilà toute la question. Réintégration, n'est-ce pas, après une période de certains travailleurs à leur poste. Ça, c'est un problème juridique. Mmh. À vous, s'il vous plaît, j'attends.
Ouais. Mais oui, voilà. Donc, après 8 mois de travail, est-ce que la procédure administrative prévoit une réintégration dans ce cas?
Je voudrais, si vous aviez permis, j'aurais voulu commencer par le début, n'est-ce pas? Mais comme vous me prenez là sur la question directement, nous allons parler directement de la procédure et par la suite nous pourrons remonter peut-être jusqu'à l'origine pour démontrer justement que cette réintégration est fondée ou n'est pas fondée. Mais en tout état de cause, j'aime bien le rappeler, j'aime dire ceci. Lorsque on va quitter son employeur volontairement, eh bien, on le fait à la suite d'un préavis qu'on lui dépose et à la suite d'une démission. C'est un acte administratif, mais aussi un acte juridique. Mais en dehors de cela, on peut quitter son employeur pour un temps, fut-il l'État ou une entreprise, auquel cas alors on a droit à un document juridique et administratif aussi qu'on appelle mise en disponibilité pour plusieurs raisons, pour des raisons de santé, pour des raisons de voyage, pour des raisons d'études, etc., etc. Et dans le cas d'espèce, il n'y a rien qui démontre que ces compatriotes réfugiés qui sont partis eussent souscrit à toutes ces formalités là, c'est-à-dire ils n'ont pas démissionné, ils n'ont pas donné de préavis et ils n'ont pas eu aussi des actes qu'on appelle mise en disponibilité. Et c'est là que le problème de réintégration pose un fait couler, pardon, de la salive et de l'encre en ce moment ici à Bukavu. Eh bien, voici le problème exactement. Lorsque on est parti dans ces conditions-là, au-delà d'un certain temps, généralement 3 mois, on est réputé être déserteur. Ça, c'est prévu dans la loi, c'est prévu dans le barème, mais c'est dans les statuts des fonctionnaires publics. On a déserté purement et simplement parce qu'on n'a pas été couvert par un quelconque acte. Tel est le cas pour tous ces gens-là qui sont partis à la suite de ces événements. J'attends la suite, s'il vous plaît.
Mais monsieur Idesbad Biabouzé, lorsque, selon les événements qui se sont déroulés à mi-juin, ils s'est réparti en refuge, arguant qu'ils craignaient pour leur sécurité, est-ce que la loi ne prévoit pas que pour des raisons sécuritaires, un agent puisse être absent de son poste de travail?
Bah d'accord, je reconnais qu'en plus de ces causes que j'ai citées qui puissent motiver la mise en disponibilité ou un préavis, il y en a d'autres aussi parce que la force majeure opère dans tous les cas en droit, n'est-ce pas? Et cette force majeure aurait été justifiée par un départ précipité à la suite de la guerre, à la suite de l'insécurité ou même à la suite des menaces qui pouvaient peser sur certaines personnes ou ces personnes-là. Or, c'est là maintenant que l'affaire se complique. Parce qu'elle prend non seulement, elle garde la coloration juridique, je viens de le démontrer à travers la désertion qui doit être constatée, mais l'affaire prend aussi une coloration politique et sociale aussi. Et c'est ça qui me pousse à revenir au début, comme je vous l'ai dit, n'est-ce pas, d'entrée de jeu,
mais pourquoi
pour pouvoir comprendre la suite et asseoir ces conclusions que je tire sans être pressant à la matière. Je ne sais pas si vous me permettez de remonter au début maintenant.
Mais oui, dites-nous pourquoi ce cas présent pose problème.
Bah, le problème, c'est que, d'abord, je ne sais même pas s'il faut parler de désertion à proprement parler. Parce qu'on ne peut déserter que parce qu'on a été employé normalement et régulièrement. Et dans le cas d'espèce, peut-être un cas sur 100 seulement de ceux qui sont partis en refuge étaient employés régulièrement. Parce que tout simplement, à la faveur des événements de 1996, la guerre de l'AFDEL, et plus tard, en 1998 avec celle du RCD, on a vu justement des gens être propulsés à des postes, généralement des postes de gestion financière, n'est-ce pas? Bon, ça c'est pas un poste administratif, mais c'est un poste politique, vice-gouverneur chargé de l'économie et des finances, mais plus généralement quoi? Directeur administratif et financier de ceci dans les régies financières, ou alors percepteur de ceci, vérificateur, contrôleurs, receveurs, etc., etc. Donc, des postes à prédilection financière qui ont intéressé ces chers compatriotes. Voilà d'abord le problème. Et ça ressemblait à de l'imposture. Parce que en dehors du schéma classique, logique et normal du recrutement dans la fonction publique, à savoir le recrutement ou la cooptation sur titre ou sur mérite, eh bien, les amis, ils sont allés par les armes. Et pour vous donner juste un tout petit détail de comment ça s'est passé en 96 et en 98.
Assez brièvement.
Un matin, vous êtes chef de division, particulièrement dans les régies financières, que ça s'appelle, je ne sais pas où, dans des divisions qui produisent de l'argent, division des mines, direction de ceci et de cela. Vous voyez un monsieur arriver, arme au poing, accompagné de plusieurs de ses frères, armés tout aussi, et qui vous disent de vous lever, au toit de là que je m'y mette. Il s'installe dans le fauteuil et il vous informe, il dit, je deviens chef de division ici, je deviens directeur par ici, etc., etc., et il en informe tout le personnel. Qu'est-ce que vous voulez? Les autres ne peuvent pas réagir parce que devant les armes, les gens se taisent. Et d'ailleurs, vous le savez très très bien, quand les armes parlent, c'est alors que le droit s'éclipse et il reprend ses lettres de noblesse seulement après. Voilà ce qui s'est passé. c'est qu'ils n'ont pas été engagés normalement par l'État, et s'agissant de ces régies financières qu'ils ont coiffées ou dirigées, ils ne sont pas passés par la filière devenue classique de notre pays. La RDC a consacré depuis le temps du président Mobutu, nous lui devons ça, salut, chapeau pour lui là où il est allé, de créer l'École nationale des finances, cadre par excellence de préparation de tous les cadres qui veulent faire carrière dans les impôts, à la douane, à la magistrature, dans la Cour des comptes, ou alors, n'est-ce pas, à l'Inspection générale des finances. Nous le savons, et nous avons beaucoup de compatriotes qui sont passés par là. Mais du jour au lendemain, en 96, en 98, on a vu des gens agir par imposture, permettez-moi le mot, et se transformer tout simplement en dirigeant dans ce domaine-là.
Oui, M. Barbouzé.
Là où le bas blesse. Donc, oui. Le début déjà était biaisé. Voilà. Et donc, la suite ne pouvait qu'être biaisée aussi. Et oui. Donc, on ne peut même pas parler à proprement parler de
réintégration.
On ne peut pas parler, c'était de l'imposture, et l'imposture a eu ses conséquences. Voilà. Ils sont partis, ils sont revenus. Oui, je vous écoute.
Monsieur Barbouzé, si on vous comprend bien, déjà au départ, ces agents étaient irrégulièrement en poste à l'OFIDA, mais ils ont travaillé, c'est là pour ne pas personnaliser le problème. Ça se pose aussi bien dans l'ancienne partie contrôlée par le RCD-KML, aussi bien dans la zone contrôlée par le MLC, où il y a eu des coordinations qui faisaient office des directions générales de certaines entreprises publiques. Si on évoque le cas des Bukavu, le problème pourra se poser aussi bien à Gbadolité qu'à Beni ou à Goma. Quelle pourrait être la réponse, la solution juridique, je précise bien, par rapport à des situations comme celle-ci?
Merci, mon frère. Je pense que dans le cas d'espèce, il s'agit d'une solution juridique, mais il s'agirait d'une espèce de juridisme, tant qu'il est vrai que les textes qui nous régissent aujourd'hui en RD Congo, à savoir principalement les accords, n'est-ce pas, les accords de Sun City, sont un cadre juridique assez flou, canard boiteux quand même, mais tout de même aussi cadre juridique accepté par tous, ne serait-ce que pour la paix sociale dans notre pays. Et dans le cas d'espèce, à la faveur de la rébellion et de la coupure du pays en deux, il y a eu justement, comme vous le dites, toutes ces coordinations, tous ces, je ne sais pas, ces faux ministères, mais enfin, je ne sais pas comment ils les appelaient encore, etc. Toutes ces autres régies qui ont été créées et qui ont embauché, en privilégiant certains de ces compatriotes, justement, qui sont réfugiés aujourd'hui. Je veux bien reconnaître que pour la paix sociale, nous puissions habiller cela juridiquement en disant, n'est-ce pas, en comparant cela ou en faisant ressembler cela à la théorie du fonctionnaire de fait, n'est-ce pas? Mmh. Où on se dit en pleine guerre, ils ont dû pour faire fonctionner la partie de la République qu'ils contrôlaient, eh bien nommer ceci, faire cela, créer cela. Ok, je veux bien, pour la paix sociale. Mais alors, par la suite, les choses se compliquent, parce que en mai et juin 2004, nous avons vu, nous sommes ici sur terrain à Bukavu. Eh bien, loin de moi, l'idée de personnaliser le débat, vous êtes en train de me poser des questions et j'y réponds comme juriste, et j'y réponds aussi comme patriote convaincu, et que donc nous devons trouver un terrain qui arrange tout le monde. Eh bien, fut-il à notre avantage, tous les autres Congolais, n'est-ce pas, nous nous appelons congophones, fut-il au désavantage des autres, n'est-ce pas, parce que le droit s'applique, parce qu'en définitive, ce pays, c'est un pays qui doit respecter
les lois. Est-ce que vous pouvez revenir
au fait? On a vu du jour au lendemain, dans les mêmes régies, dans les mêmes administrations, lorsque Gilles Moutebou Si Nkunda ont commencé à tirer par ici, ses compatriotes qui ont porté la tenue militaire, eh bien, et qui sont venus détruire l'outil de travail, qui ont menacé même la vie des autres, qui ont fait n'importe quoi, et dans le cas précis, le dernier exemple en date, de ce monsieur Boutoto qui a voulu réintégrer son poste à l'OFIDA, on l'a vu piller, n'est-ce pas, piller systématiquement les entrepôts de l'OFIDA. Eh bien, dans ce cas-là...
Est-ce qu'il y a des preuves?
Le droit du travail est clair. Lorsque un travailleur détruit méchamment l'outil de production, l'outil de travail, l'autre le regardait en bon père de famille, lorsque le travail menace la sécurité de ses collègues travailleurs, ce sont là de fautes lourdes professionnelles et qui sont déjà, comme je viens de le démontrer, assises sur une espèce d'imposture et d'irrégularité et d'illégalité. Voilà le problème. C'est que nous quittons en ce moment le terrain du droit parce que nous avons démontré que cette réintégration n'est pas possible. Nous entrons sur le terrain, n'est-ce pas, du social,
du travail,
logique aussi, pour dire tout simplement ceci. quelle est, humainement parlant, la position d'un pareil concitoyen ou patriote, compatriote vis-à-vis des autres qui reviendraient retrouver au travail. Mais c'est tout à fait normal ce qui s'est passé ici à Bukavu, à l'OFIDA et à la Banque Centrale du Congo, où le personnel a dit qu'il ne pouvait plus jamais travailler avec des individus comme ça qui pourraient les tuer encore demain, n'est-ce pas? Eh bien, pas seulement cela, même de l'autre côté, nous sommes des hommes. Est-ce qu'un individu pareil ne se générait même pas? Il faut vraiment être assez, il faut, j'appelle ça de la témérité, que de venir sans crainte, sans froid aux yeux et prétendre retrouver un poste comme ça, indûment occupé,
monsieur,
et mal occupé par la suite, et qui plus est, n'est-ce pas, eh bien, a produit de frustration par le comportement qu'on a affiché.
Monsieur
voilà
Babouzé,
tout le problème qu'il y a voilà. Par ici. Mais je dis ceci.
Monsieur Babouzé.
Revenons encore.
Monsieur Babouzé.
Revenons maintenant sur la solution juridique.
Mais voilà. Voilà la solution.
Il faut faire, il faut analyser le problème au cas par cas.
Mm-hmm.
Tous n'ont pas été mauvais, n'est-ce pas, et tous ne peuvent pas être mauvais. Il y en a, c'est vrai, qui sont otages. Jusqu'aujourd'hui, même dans leur refuge de leur chef, des extrémistes que nous connaissons, et qui ne peuvent même pas revenir ou qui reviendraient difficilement.
Venons-en à la solution juridique.
Ils ont jamais touché aux armes, et que donc un examen s'impose ici au niveau de notre province. Il y a le vice-gouverneur chargé de l'administration qui devrait faire cela, il y a le directeur de province, il y a les directeurs dans toutes ces régies là-bas, il y a le gouverneur de province, ils connaissent la situation, ils peuvent recueillir des témoignages de toute la population et de tous ceux qui travaillent, les autres Congolais qui travaillent partout où ça s'est passé. Et que donc, si 1 sur 10 n'a pas fait cela, ou 5 sur 10, ou même 9 sur 10 n'ont pas fait cela, il faut que les lois s'appliquent, n'est-ce pas, pour ceux-là qui ont menacé le travail, qui ont tué le travail et qui ont fait ce qui s'est passé. Cela, ils méritent des sanctions pénales, ils méritent aussi des sanctions sur le plan du travail, ça signifie être exclu définitivement. Pour les autres, eh bien justement parce que nous sommes dans la dynamique de la paix sociale, on pourrait justement régulariser leur situation parce qu'ils n'ont jamais vu de numéro matricule, si ce ne sont ceux de la rébellion, etc., etc. Autant il y a une intégration au niveau de l'armée, autant il y a une intégration au niveau de ceux qui se sont battus, n'est-ce pas, c'est-à-dire les belligérants, autant il devrait y avoir une intégration aussi sur le plan de l'administration publique. Eh bien voilà mon avis, sans oublier aussi que ces situations d'intérim qui continuent à perdurer ici à l'Est particulièrement ne sont pas pour arranger notre appareil administratif et étatique à la fois. Je prends l'exemple, n'est-ce pas, pas seulement dans l'administration publique,
oui, monsieur,
mais
monsieur,
même dans l'armée aussi.
Monsieur Babouzé, monsieur Babouzé, monsieur Babouzé, s'il vous plaît, s'il vous plaît,
nous avons à l'OFIDA, monsieur, nous avons à la SNEL, etc., etc., des intérimaires. Il faut confirmer les gens, il faut régulariser pour ceux qui méritent la régularisation.
Okay. Voilà, merci. Monsieur Babouzé, j'aurais bien voulu qu'on reste sur la question précise de droit de travail et des entreprises publiques, sans entrer dans les questions de l'armée. On a bien compris que, comme solution, vous souhaitez qu'il y ait préalablement des enquêtes pour établir les responsabilités des uns et des autres, tout en rappelant que cette situation se pose aujourd'hui à Bukavu parce qu'il y a eu un cas qui en est surgi, mais ces situations sont aussi bien prévisibles à Beni qu'à Agbadolité. Et je dois dire aux auditeurs que nous n'avons pas réussi à joindre le PDG de l'OFIDA. On nous apprend qu'ils sont en réunion et que donc personne ne répond. Nous continuerons à faire des efforts pour avoir la réponse parce que, en tout cas, dernière nouvelle, nous avons appris que l'affaire est à l'étude dans une réunion des comités de gestion élargie aux coordinations des territoires occupés et unifiés au niveau de Kinshasa. Donc d'ici là, nous aurons des réponses, d'autres réponses aux interrogations des auditeurs. Pour l'instant, Monsieur Biabouzé, nous vous remercions vraiment d'avoir été disponible pour nous donner la lecture juridique au point de vue du droit administratif et du droit de travail. Merci beaucoup et bonne journée à Bukavu.
Ben, merci beaucoup à Kinshasa, salutations à tout le monde par là et je remercie tous les auditeurs aussi. Merci beaucoup Radio Okapi.
Merci, au revoir. Lorsqu'il y a une collation académique, c'est une journée de fête. Chaque année, des milliers de finalistes sont versés sur le marché de l'emploi. Après les fêtes, s'il y en a eu, la longue série de demandes d'emploi commence. J'ai l'honneur. Objet, c'est demande d'emploi. Eh bien, il faut travailler. Très peu de personnes ont la chance d'avoir du travail. Il faut travailler. Vous vous rappelez ce que le vieux laboureur disait à ses enfants? Travailler, prenez de la peine. C'est Jody qui nous le rappelle. Pour travailler, il faut donc qu'il y ait des emplois. Le travail permet à l'homme de gagner un revenu qui lui permet de subvenir à ses besoins et aux besoins des siens. Cependant, il y en a qui sont réduits au chômage faute d'emploi, d'autres sont réduits au sous-emploi parce qu'ils n'ont pas l'emploi qu'ils devraient avoir en fonction de leur qualification. Alors, on parle de ce problème avec Jody Kachama. Bonjour, Jody.
Bonjour, Walter.
Là, là, le micro de Jody n'est pas ouvert. Non, non, mais il est trop faible, cher Alain. Il faut le mettre à fond. Alors, Jody, vous n'êtes pas le laboureur, mais vous nous avez rappelé cette question-là. Le chômage bat son plein dans notre pays. Quelle en est la proportion? Est-ce que vous avez des données chiffres sur le taux de chômage en République démocratique du Congo?
D'après les responsables de l'Office national de l'emploi, il n'y a pas eu encore des études pour...
Mais je pense, Johnny, que vous allez changer de micro. Si vous pouvez venir par ici, il y a un problème là. On va vous changer de micro. Est-ce que c'est possible, Alain? Johnny, oui. Les statistiques, voilà, par rapport à l'emploi, c'est mieux comme ça.
Ok. D'après les responsables de l'Office national de l'emploi, il n'y a pas encore eu des études pour déterminer le taux de chômage dans notre pays. Néanmoins, ils reconnaissent qu'il y a beaucoup de chômeurs dans notre pays, particulièrement ici à Kinshasa. Mais des statistiques n'ont pas été jusque-là faites pour déterminer le taux du chômage dans notre pays.
On a donc déjà un problème sérieux. Lorsque, par exemple, je quitte chez moi et que je suis dans le véhicule très tôt le matin, en même temps que le train qui vient de Gilly, ce que vous pouvez observer, à ce moment-là, la ville est déserte. Au fur et à mesure que ce train arrive, la ville s'est remplie des gens qui sont que dans les rues, qui n'ont même pas une tenue de travail. On comprend déjà une petite proportion par rapport à ces mouvements du train. Mais quelles sont les causes réelles du chômage dans notre pays?
Alors, d'après les responsables de l'ONEM, qui est l'Office national de l'emploi, c'est la situation socio-économique qui prévaut dans notre pays depuis 1990, situation marquée par la suspension de la coopération structurelle, le dépillage et les guerres. Donc, tout ceci a entraîné la fermeture de plusieurs entreprises, avec comme conséquence le chômage.
Vous parlez de l'Office national de l'emploi. Quel est exactement le rôle joué par... le rôle que doit jouer cet office?
Bien, l'Office national de l'emploi, en sigle ONEM, est un établissement public national à caractère technique et social placé sous la tutelle du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Mmh. Alors, cette structure a pour mission générale de promouvoir l'emploi décent au profit des populations. Écoutons à ce sujet les explications de M. David Matondo Kwanzambi, directeur général de cet office.
Cette Congolaise qui n'a pas du travail, a l'obligation de venir se faire connaître à l'Office national de l'emploi. Parce qu'on ne peut pas intervenir sur quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc là, je saisis l'occasion pour rappeler à ceux qui ne le savent pas que toute personne dans notre pays qui n'a pas du travail ou qui exerce un travail qu'il n'aurait pas voulu exercer peut venir se faire enregistrer à l'Office national de l'emploi. Comme ça, il sera enregistré chez nous. Et d'autre part, les employeurs qui créent des emplois ont l'obligation de venir déposer leur offre, de nous signaler les vacances de postes créées dans leurs entreprises. De plus en plus, nous commençons à recevoir les offres des entreprises. Hier, j'ai reçu 5 offres de Celtel Congo, j'ai reçu les offres de Citigroup, j'ai reçu les offres de CEP Congo. Donc, de plus en plus, il y a un engouement. Et la semaine dernière, j'ai reçu aussi les offres du Tex Africa, qui cherchait les cadres pour le marketing des délégués commerciaux.
Mais voilà, vous êtes entrepreneur, vous avez besoin des travailleurs qualifiés, demandez vos offres d'appel, vos appels d'offres, si vous voulez déposer vos appels d'offres à l'Office national de l'emploi, qui peut vous proposer un recrutement assez adéquat. On l'espère, hein, qu'il n'y a pas de magouille là-dedans, mais quels sont les autres axes d'intervention de l'Office national de l'emploi, Jody Kachama?
Alors, en plus de l'intermédiation entre les demandeurs et les créateurs d'emplois, l'ONEM finance aussi la formation des demandeurs d'emploi. Vous ne trouvez pas un métier correspondant à la formation reçue.
Le sous-emploi.
Oui. Non, non. Par exemple, vous avez eu une formation à l'école et vous ne trouvez pas un métier. Alors, l'ONEM peut vous aider à suivre d'autres formations dans d'autres domaines.
Ah,
donc,
okay,
l'ONEM
okay.
peut vous aider pour vous orienter dans d'autres domaines. Et en plus, pour les jeunes qui viennent de terminer les études, l'ONEM les envoie dans les entreprises pour passer un stage professionnel pour allier, n'est-ce pas, la théorie à la pratique. Mais malheureusement, l'ONEM n'arrive pas à remplir toute sa mission faute de moyens, de sa politique, d'après son directeur général.
Mais vous y étiez, est-ce que vous avez rencontré des personnes qui sont en train de rechercher du travail.
Oui, j'ai rencontré des personnes qui recherchent du travail. Et une précision, d'après le DG de cette structure, et ils ont enregistré à ces jours au moins 10 000 personnes, 10 000 demandeurs d'emploi. Et j'ai rencontré des jeunes gens en train de lire les différentes offres qui sont affichées dans le couloir de l'ONEM. Gabi est l'un d'entre eux, écoutons-le.
Aujourd'hui, je suis venu juste pour l'interview. C'est hier que je suis venu pour demander une carte d'emploi qui me permettra et qui me facilitera la tâche d'être engagé dans une entreprise quelconque. Alors avec cette carte-là, on a la facilité parce qu'on est reconnu dans le pays être un chômeur, être un chercheur d'emploi.
Ah donc on vous enregistre, on donne
des cartes. On enregistre, on donne des cartes. Et d'ailleurs j'ai une carte ici, je l'ai eue juste aujourd'hui. Aujourd'hui je suis venu juste pour l'interview. On va m'interviewer. Question de savoir ce que j'ai fait dans la vie, si j'avais déjà travaillé quelque part ou avec le temps je vais avoir du boulot ou bien quel genre de boulot que je cherche dans une société.
Et quel genre de boulot vous cherchez?
Bon, agent commercial s'il y a moyen de mettre en place. Et puis bon, ça dépendra parce que il y a beaucoup d'offres dans certaines entreprises. Quand on est employé quelque part, on est payé et puis c'est ça la vie quoi. Il faut avoir du travail pour être quand même reconnu dans la société, pour être bien dans la vie quoi. C'est pourquoi on cherche de l'emploi.
Et les études, qu'est-ce que vous en pensez?
Les études cette année, si tout va bien, je vais continuer mes études. Bien sûr que je cherche l'emploi parce que c'est momentané. Pour le moment, je ne fais rien. Alors, pour ne pas rester en chômage comme ça, en attendant l'année prochaine, l'année qui commence, je préfère trouver un emploi et travailler au besoin. Si j'aurai à combiner les études avec le travail, ça sera toujours meilleur pour moi.
On sait qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois en République démocratique du Congo. La RDC connaît un sérieux problème de chômage. Jody Kachama, que font les jeunes gens diplômés qu'on voit chaque année défiler les rues de nos villes, de nos cités, avec de la poudre sur la tête, arborant la toge de collation des grades? Que font-ils pour trouver de l'emploi?
Eh bien, ils appliquent tout simplement l'article 15. C'est la débrouillardise. La plupart sont encore, d'autres sont encore à la charge de leurs parents, d'autres se sont lancés dans des activités informelles. Et par contre, d'autres travaillent comme des journaliers dans des entreprises de la place. Donc, ils font ce qu'on appelle les sous-emplois dans des entreprises de la place.
Alors, c'est en attendant mieux, quoi.
En attendant de trouver mieux. Écoutons à ce sujet les témoignages d'un ancien journalier qui a travaillé dans une entreprise de la place.
Na travaille qui na société à Fomo de Babien en Davien, Isalia na Flamo. Na à Fomo du Punaisa Moussala ya ba mèche, ni tomano sa na gratoire. Na évite na gratoire, et ça tant ou ba mèche yé, yak en désordre. Là, il faut beau gratter en haut, vous peignez en haut, vous classez en haut, et les qui na tableau, vous cachez en tout, vous tchana ba sachet. Et bien, kuna to vandaki babane ko pesa ki lelo ando pesa 410 francs par jour. Mo soki otali na musala to sala na mon to zozo atuka eza ko kate na musala wana yango eza passe mingi to tika yango atuka okokin depuis 8h ti 12h ope ma pendant 30 minutes debout et aux autres travailler et ya repos eza te pendant 30 minutes. Si on continue sur la base de repos, ils ont gagné 410 francs. En tout cas, ils ont gagné insuffisant. Ils ont permis, même ceux qui ont béli, ils ont permis de se soigner.
Alors,
c'est quoi
le
cas de
ça? Ils ont gagné 410 francs.
Pour le moment, on a commis que 400 bazar, on a seulement vu le coup de la zongi, la PCDFTC, après une semaine, je rentre encore, la salle, après la zongi, on a commencé à la mettre.
Voilà, c'est ce qu'il fait. Article 15, le fameux article 15, alors que l'on attend dans beaucoup de discours des acteurs politiques pour dire qu'ils doivent juguler le chômage, il y a beaucoup à faire. Beaucoup à faire sur cette question. On peut imaginer que le chômage a beaucoup de conséquences sur la vie socio-économique du pays, Jody Kachama.
Tout à fait, le chômage a beaucoup de conséquences. On dit toujours que l'oisivité est la mère de tous les vices. Donc les conséquences du chômage sont multiples. Vous avez par exemple la perte des revenus, vous ne pouvez plus gagner de l'argent, et il y a la perte des statuts sociaux, donc la baisse d'estime de soi, la dévalorisation, les problèmes de santé physique et mentaux, donc les personnes qui ne travaillent pas sont butées à ce genre de problèmes. Il y a également la perte de logement. Si vous habitez quelque part et vous n'êtes pas à mesure de payer le loyer, vous devez, n'est-ce pas, libérer la maison. Il y a le sentiment d'inutilité. Et il y a beaucoup de conséquences aussi sur l'éducation des enfants et des parents qui ne sont plus à mesure d'assurer les besoins de leurs enfants, concernant par exemple l'alimentation, l'habillement, et l'espace habitable, les frais scolaires et autres. Il y a la perte des liens sociaux. Donc le chômage crée une tendance au retrait ou à l'isolement vis-à-vis de la famille, mais aussi des amis et des voisins. Sachant que la situation financière n'est pas assurée, les personnes au chômage refusent parfois les invitations et les sorties proposées, parce qu'ils ne peuvent pas garantir la réciprocité.
La réciprocité, je veux dire.
Il y a aussi la perte des liens familiales, la persistance de l'inactivité et même l'instabilité de l'emploi rendent le couple plus fragile. Donc les chômeurs sont deux fois plus nombreux à vivre dans une famille monoparentale. Et il y a aussi, on a noté les maladies. Beaucoup de chômeurs se plaignent d'asthme, mais surtout de dépression et des symptômes de mal-être tels que la nervosité, l'anxiété, l'angoisse et tant d'autres problèmes. Et on note également qu'il y a des cas de suicide aussi. Le chômage est l'un des facteurs saillants associés au suicide, aux tentatives de suicide.
Dans des pays industrialisés, moins ici en tout cas.
Oui, dans des pays industrialisés surtout. Et c'est un facteur aussi des délinquances.
Ah oui, ça on observe.
Ça on observe beaucoup de jeunes gens.
Tous ces jeunes gens-là qui montent sur les toits des trains. Vous avez déjà fait un merveilleux reportage sur le train qui relie Njili au centre-ville.
Massina, pour venir au centre-ville. Et la plupart, c'est des voleurs, ils sont là, ils passent tout leur temps au marché central en train de voler, en train de faire ceci ou cela, et cela pousse les jeunes à la délinquance, tel qu'on a dit. Donc voilà, il y a plusieurs conséquences qui découlent, n'est-ce pas, du chômage.
Je reçois Madame Alice Mérimo, Kabiti. Bonjour Madame.
Bonjour Monsieur Walter.
Et Madame Régine Mambou, bonjour.
Bonjour Monsieur Walter.
Alors, il faut parler vers le micro. Voilà, c'est bien, c'est intéressant. Alors, une question se pose. Il y a du chômage et beaucoup de jeunes nous attendent. Est-ce que il y aura des emplois pour les jeunes un jour dans ce pays, Madame Alice?
Oui, effectivement, il y a du chômage et notre pays en souffre par plusieurs raisons. Nous savons tous qu'il y a eu la guerre ici, il y a des catastrophes naturelles, il y a trop de problèmes qui font que beaucoup de jeunes se retrouvent pratiquement sans emploi, il y a du sous-emploi, il y a un certain nombre de stress que les jeunes connaissent chaque jour. Mais il se fait qu'au niveau international, il y a déjà une dynamique internationale très importante que nous ne connaissions pas, mais que nous avons connue par la suite. C'est quoi au juste? Il est question d'une dynamique qui a commencé depuis 2000 par la déclaration des objectifs du millénaire qui avait été adoptée par les chefs d'État à l'Assemblée des Nations Unies.
L'Assemblée générale.
À l'Assemblée générale des Nations Unies.
Oui.
Et à l'issue de ces objectifs du millénaire, Monsieur Kofi Annan, le secrétaire général des Nations Unies, avait pris l'initiative de créer un réseau appelé Réseau pour l'emploi des jeunes. Il a pris cette initiative ensemble avec le président de la Banque mondiale, le directeur général de l'Organisation internationale de travail. Et ces trois institutions internationales se sont entendues pour faire une alliance autour de questions de travail de la jeunesse. Ils ont compris qu'il faut impliquer la jeunesse dans le développement à tous les niveaux. En fait, l'objectif principal de la déclaration des objectifs du millénaire, c'est d'éradiquer la pauvreté partout dans le monde.
Et par rapport à l'emploi des jeunes?
Par rapport à l'emploi des jeunes, il était question d'envisager la création des emplois décents pour les jeunes, afin que les jeunes arrivent à se prendre en charge, que les jeunes arrivent à participer au développement de leur pays. Et ce réseau a été donc mis en place pour que ce réseau soit pratiquement le réseau des États. Ce sont les États qui doivent adhérer à ce grand réseau pour l'emploi des jeunes en prenant l'engagement d'accepter de créer ces emplois pour les jeunes et de faire participer les jeunes à la création de ces emplois.
Vous savez, il y a des milliers de jeunes qui nous écoutent. Ouais. C'est un beau discours que vous venez de faire. C'est des beaux principes que vous venez de déclarer. Et là, ils se demandent, mais oui, aussi Toyoka Ngoka, là, depuis Mobutu, depuis Kabila, mais actuellement, tous les politiciens disent, on va juguler les chômages. Concrètement, comment au niveau des États, notamment, il faut traduire en actes ces déclarations qui sont nobles pour donner de l'emploi aux jeunes.
Effectivement, au niveau des États, il est question que chaque État manifeste son adhésion par une lettre de candidature pour devenir d'abord pays leader de ce grand réseau. Parce qu'il n'y a que les pays leaders qui vont piloter les projets qui vont découler des plans d'action nationaux qui doivent être élaborés à l'issue de cette candidature. Et après avoir présenté la candidature du pays au niveau du secrétaire général ou du secrétaire général des Nations Unies ou du directeur général
à l'OIT.
Il est question d'élaborer un plan d'action national qui démontre comment le pays va réellement créer les emplois pour les jeunes.
Ok, tout ça c'est encore de l'administration, la grande bureaucratie internationale. Je vais peut-être laisser Madame Régine Mambo peut-être continuer sur cette question, ou c'est vous qui continuez. Alice, d'abord avec vous, est-ce que, un, la RDC a adhéré au programme et comment ça se passe concrètement?
Ok. La RDC a fait juste une première étape, c'est d'adhérer à la déclaration des objectifs du millénaire.
Il n'y a pas encore de plan d'action.
On a d'abord adhéré à la déclaration des objectifs du millénaire en 2001. Mm-hmm. Mais il y a ce qui a suivi, c'est la mise en place du réseau pour l'emploi des jeunes. La RDC n'a pas encore adhéré à ce réseau parce que la RDC n'a pas encore accompli l'exigence à cet effet. C'est-à-dire.
Quelles sont les exigences?
Voilà, les exigences et les questions que le président de la République signe la lettre de candidature, il le présente aux Nations Unies ou bien à l'OIT pour manifester l'engagement du pays d'être membre ou pays leader du réseau pour l'emploi des jeunes. Là, c'est au niveau de l'engagement, au niveau international.
Donc, on est déjà bloqué par rapport à ça. On est en retard, je
vous le dis. Pratiquement. On est en retard par rapport à ça parce que, en réalité, déjà vers 7 ans, il y a des travaux qui se préparent pour préparer la grande conférence internationale sur le travail qui aura lieu en juin 2005.
Vous y serez?
Il sera question d'abord de discuter autour de ce réseau pour l'emploi des jeunes. Oui. Parce que, pour votre information, il y a déjà au moins 10 pays qui ont déjà adhéré à ces réseaux, qui sont déjà des pays leaders ont déjà donné leurs plans d'action nationaux. Il y a l'exemple du Rwanda, par exemple. Le Rwanda vient même de déposer son plan d'action nationale de création des emplois des jeunes pour 5 ans.
Quel autre pays africain?
Il y a le Mali, le Sénégal. Pour encore en ajouter plus, le Sénégal a non seulement adhéré et donné le plan d'action
national,
mais le président sénégalais s'est même engagé à débloquer 10 millions de dollars pour déjà
commencer
la création des emplois dans son pays. Monsieur Abdoulaye Wade. En attendant que la Banque mondiale apporte son appui, parce qu'au fait, la troisième institution qui est aux côtés des Nations Unies et de l'OIT, c'est la Banque mondiale.
Voilà.
C'est au fait l'institution financière qui va aider à permettre le financement même de tous ces plans d'action. En attendant que cette banque vienne, leur président a déjà manifesté la volonté
au Sénégal.
De son pays au Sénégal.
La RDC est en retard. Alors vous êtes membre de l'Union chrétienne féminine de la République démocratique du Congo. Je pose la question à la vice-présidente, Madame Régine Mambou. Par rapport à cette problématique, qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau de Kinshasa déjà, au niveau de la RDC, pour donner des opportunités d'emploi aux jeunes?
Pour le moment, nous avons informé le gouvernement, l'État, nous avons sensibilisé les institutions de la République pour qu'ils écrivent cette lettre d'adhésion à ces réseaux.
Et où est-ce que vous en êtes, Madame Alice Mérimont, présidente de l'Union?
Oui, ces démarches sont effectivement en cours parce que nous n'avons pas seulement intéressé les institutions étatiques, nous avions même écrit à la Banque mondiale, au système des Nations Unies représenté ici. Nous avons écrit même à la MONUC aussi. Nous avons informé le Bureau international de travail représenté ici. Et à cet effet, il convient de signaler qu'à tous les niveaux où nous sommes partis, il y a une dynamique qui se fait. Au niveau des institutions étatiques, le dossier a sensiblement évolué. Il a même déjà dépassé le collège du socio-culturel. Il est déjà parti au niveau du directeur de cabinet et les dossiers, de la présidence de la République, et les dossiers sous étude pour transmission au chef de l'État. Nous profitons juste de demander qu'il y ait
célérité,
que l'on puisse mettre le dossier en procédure d'urgence parce que au niveau de Genève, on clôture déjà ces dossiers de mise en œuvre du yen parce que on doit passer à la phase suivante de financer ces plans d'action. Or, nous sommes encore au niveau de solliciter la lettre de candidature. Un grand travail attendu d'élaborer le plan d'action national. Je vous informe qu'au niveau de la YWCA, nous avons mis en chantier un plan d'action national de création d'emplois décents, pas n'importe quel emploi.
Au niveau de votre association, vous avez déjà proposé un plan d'action que vous voulez soumettre au niveau des institutions pour qu'il soit entériné et que, à la place, au moins que celui-là soit envoyé avant la clôture des dépôts de candidature.
Effectivement. C'est-à-dire, nous avons pensé faciliter la tâche
au gouvernement.
Oui. Nous avions été envoyés à l'Office national de l'emploi,
ONEM,
par le ministère du Travail, parce que à l'époque, le ministre qui était là, c'était vraiment engagé à soutenir ce dossier jusqu'au bout. Et nous étions partis à l'Office national de l'emploi. Nous avons travaillé là-dessus avec le directeur général. Et ce projet est partout. Nous avons même saisi l'Assemblée nationale, le Sénat. L'information est à tous les niveaux. Et pour encore vous donner une autre information, c'est qu'au niveau du BIT, Kinshasa,
Bureau international du travail,
il y a même déjà une dynamique de création même d'emplois. Parce qu'en fait...
Quels seront ces emplois? Parce que vous savez, les auditeurs se disent, mais oui, il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose qui se prépare, mais bon, tant que vous avez le cas, il y a un bilot qui est en cuisine, tu te dis, les jeunes, qu'est-ce que vous préparez pour les jeunes en termes d'emploi?
Ok, j'étais donc en train de dire qu'au niveau de BIT ici, ils ont commencé élaboration d'un programme de création d'emplois par l'entrepreneuriat coopératif. Et en fait, pour le BIT, l'entrepreneuriat coopératif est incontournable. En fait, ça permet à la population coopérative, ça permet à la population de s'organiser en petits groupes selon leur secteur bien donné autour d'une activité qui peut leur produire de revenus.
Prenons un exemple.
Par exemple, je prends l'exemple de la coopérative d'épargne et de crédit. Certaines personnes se mettent ensemble pour cotiser et faire... l'argent tourne autour de la coopérative. C'est une forme de banque, en fait, mais une banque privée, une banque de personnes privées.
Comme les systèmes de robots qui s'encartent un peu ça.
Un peu comme ça. Bon, je peux dire aussi, pour être beaucoup plus pratique, c'est comme le Likelemba, pratiquement.
Likelemba.
Chacun y trouve son compte, on se partage à un certain moment l'argent, et c'est de l'argent qu'on a gagné, pas parce qu'on a fait du hasard, mais parce qu'on y a travaillé en faisant entrer son argent propre. Ça vous procure en plus par rapport à tout un système que vous créez entre vous.
Mais ça, c'est une source de financement, mais l'emploi n'y est pas encore.
Quand nous parlons maintenant de l'entrepreneuriat coopératif, vous voyez bien, il y a le mot entrepreneuriat. En fait, ce sont des initiatives des personnes qui acceptent de se mettre ensemble autour d'une situation donnée. Ça peut être, par exemple, une mutuelle de santé, ça peut être une coopérative agricole, où les agriculteurs, les personnes, les mamans maraîchères se mettent ensemble pour, à un certain moment, mettre ensemble leurs bénéfices et voir dans quelle mesure se le partager. Il y a aussi le cas des coopératives minières. Actuellement, peut-être les gens ne sont pas informés, mais les creuseurs peuvent faire une coopérative minière. Et quand ils
les exploitants artisanaux.
Les exploitants artisanaux, voilà.
peuvent avoir leur coopérative minière. Et cette coopérative minière, c'est une institution à part entière qui peut même obtenir une concession minière, pourquoi pas. En fait, c'est toute cette façon de prendre des initiatives, de se mettre ensemble, qui génère les emplois. Parce qu'en réalité, on a une petite entreprise qui a besoin d'un personnel, qui a besoin de l'expertise. Et au moins, nous savons que les personnes qui terminent l'université, qui connaissent un certain nombre qui ont un certain nombre d'expériences par rapport peut-être au marketing ou
théorique,
tout ça, ils auront l'occasion, quand ces entreprises sont créées, d'expérimenter leurs connaissances.
Vous, au niveau de l'Union chrétienne féminine, qu'est-ce que vous avez déjà posé comme action concrète en dehors des actions de lobbying que vous faites par rapport à ce que la RDC adhère à ce programme? Madame Régine Mambo. Non? Ou vous laissez la présidente continuer à parler? Bon alors, Alice Mérimo Kabitsi, c'est vous qui répondez.
J'aimerais bien que Madame Régine en parle parce que elle-même, elle est en train même de diriger une ferme. Il y a un certain nombre
d'activités
que nous faisons.
Parlez-nous des activités de la ferme.
Et elle peut parler.
Mais oui, c'est quelle activité, Madame Mambo?
Pour le moment, je gère une petite ferme et une porcherie.
Combien de têtes?
J'ai une trentaine de têtes.
C'est pas petit, hein. Oui, alors comment ça se passe? D'où est venue l'idée de créer cette porcherie?
Moi-même, je suis une... J'ai perdu mon emploi à la Gécamine,
oui.
J'ai travaillé à la Gécamine, et suite à la restructuration de cette société, je me suis retrouvée ménagère,
oui,
femme ménagère.
Oui.
Et j'ai eu l'idée de faire quelque chose, de créer de commencer cette porcherie, et c'est une nièce à mon mari qui m'a donné une truie pour commencer. Et je me suis investie là-dedans, j'ai investi là-dedans, je suis arrivée maintenant à une trentaine.
Je sais que tenir une porcherie, ça demande de la nourriture pour les bétails, pour les porcs, il faut des médicaments, il faut tout ça. D'où viennent les fonds pour que vous puissiez gérer tout ça?
Ce sont mes fonds propres. Je suis multi. J'ai beaucoup d'activités, d'autres activités qui me donnent
des revenus. Et vous récanalisez ça vous réinvestissez dans la porcherie.
Évidemment, mon mari y est aussi pour quelque chose.
Il y est pour quelque chose.
Oui.
Jamais une personne ne réussit s'il faut être deux, non? C'est ce qu'on comprend.
Bon, de toute façon, on est dans la famille, on s'est dit que une personne, par exemple, je parle des universitaires,
oui.
Ce sont des personnes qui doivent créer des emplois.
Voilà.
Ils ont étudié, ils ont acquis, comme disait Alice, une certaine expérience intellectuelle. Ils sont donc capables de créer des emplois, et avec des petits fonds, on peut arriver à faire quelque chose.
Combien de personnes travaillent dans la porcherie?
J'ai deux personnes pour le moment qui travaillent dans la porcherie.
Pour le moment, ça sous-entend que vous voulez engager d'autres?
Ben, j'aimerais bien, si les projets de la réinsertion de la Gécamine s'est réalisé, j'aimerais bien élargir ma ferme et avoir une grande ferme en dehors de Kinshasa, parce que pour le moment, je l'ai fait dans ma parcelle familiale, ce qui n'est pas vraiment indiqué.
Mais voilà, une initiative à encourager. Il y a des questions des auditeurs qui arrivent. On va clôturer. Vous allez conclure tout à l'heure. Alice Camélia Pas de Kinshasa qui voudrait qu'on lui donne l'adresse de l'Office national de l'emploi. Rendez-vous à l'immeuble Royal, entrée A, étage sur le boulevard du 30 juin, au niveau de la place Royale. Au premier étage, il faut y entrer. Par l'entrée A, tout simplement, vous vous renseignerez, il y a des policiers qui sont là, à la réception, n'est-ce pas, Jody, n'est-ce pas? Il y a des policiers à l'entrée. Voilà l'adresse. Office national de l'emploi, boulevard du 30 juin, place Royale, immeuble Royal, entrée A. Très bien. Et puis Augustin Kilassi Tukumbani de Kananga, Il voudrait qu'on développe la question relative aux causes du chômage en RDC et qu'on en parle de façon plus détaillée. Ah ben, il a l'impression qu'on n'en a pas suffisamment parlé, mais ben, comme c'est une question de tous les jours, on en reparlera encore. Vous avez notre parole. Landry de Kinshasa, qui voudrait, qui fait une analyse. Le problème du chômage résulte de la mauvaise gestion du pays depuis la Deuxième République. Au niveau du gouvernement, il n'y a pas de véritable planification d'emploi, pas de politique cohérente et pas de préparation correcte des jeunes aux métiers à exercer. Monsieur Landry pense que l'enseignement est mal organisé et non suivi. Selon Landry, l'université favorise un enseignement de masse, un nom d'élite. Une réaction par rapport à la réaction de Landry,
oui,
Alice?
Effectivement. La réaction consiste même à démontrer la pertinence de ce plan d'action national qui doit accompagner la candidature. Mmh. En fait, en écrivant ou en rédigeant ce plan d'action, nous sommes confrontés effectivement à tout ce problème. Ici, en République démocratique du Congo, on ne connaît pas même les statistiques de chômeurs.
Mais je dis, il y a du mal à trouver les chiffres. Ouais.
Tout cela doit être pertinent dans ce plan d'action. En fait, nous devons arriver à faire des études sur la situation du chômage des jeunes en RDC. Nous devons arriver à avoir une politique nationale de l'emploi en général. Il n'y en a pas jusqu'aujourd'hui. C'est malheureux pour nous. Et quand nous amenons le dossier des jeunes, on nous dit, mais vous parlez des jeunes, mais il faut d'abord voir la situation de tout le monde. Et cela doit aussi nous amener à identifier les secteurs porteurs. Les secteurs porteurs pour créer les entreprises et les emplois.
Ça pourrait être quoi en 30 secondes?
En 30 secondes,
les secteurs porteurs,
par exemple, l'agriculture, l'élevage.
Bon, on a attendu l'exemple de la porcherie.
Oui, par exemple. Oui. Et pourquoi je dis ça? C'est par rapport à l'enseignement. En fait, l'enseignement, nous avons constaté qu'il est donné un peu en formalité. Mais on ne reçoit pas l'éducation par rapport
à
un métier ou par rapport à ce que nous devons devenir demain. Et c'est ça même l'intérêt de ce plan d'action. En fait, c'est à partir de la pertinence de ce plan d'action que nous aurons l'œil de tout le monde entier derrière nous.
Mais d'ici 2015, quand on fera le bilan des objectifs du millénaire, le premier bilan, on n'aura rien fait au Congo.
Pratiquement, et surtout si on évolue à ce rythme des lenteurs administratives que nous sommes en train de subir, nous risquons même de rater cette opportunité aussi importante.
Je suis très sûr que si nous continuons à en parler, on va continuer jusqu'à minuit, on n'aura pas fini à déballer tous les problèmes, on n'aura pas fini le mois de février pour en parler. Il faut qu'on s'arrête quand même ici pour faire un pas et dire qu'on va suivre. Un dernier mot pour conclure, Madame Alice.
Ok, un dernier mot, c'est pour souligner qu'actuellement, avec toutes ces démarches liées aux élections libres et démocratiques, nous sommes en train d'attirer l'attention de toutes nos autorités politiques et administratives. Nous attirons aussi l'attention de tous les représentants de toutes ces institutions spécialisées des Nations Unies, de l'OIT, de la Banque mondiale, de la MONUC, qu'ils aient à saisir cette opportunité du Réseau pour l'emploi des jeunes pour apporter une nouveauté à la jeunesse par rapport à ces enjeux électoraux.
On suivra ce que vous faites déjà pour les femmes, parce que c'est une union des femmes. Je rappelle que Mme Alice Mirimo Kabeti est présidente de l'Union chrétienne féminine de la République démocratique du Congo. Elle s'est fait accompagner de Mme Régine Mambou, vice-présidente de l'UCF, RDC. On a parlé de ces problèmes par rapport à l'emploi des jeunes. Nous n'y sommes pas encore. Il y a un plan d'action que vous avez proposé, que vous avez soumis aux institutions de la République. Un plan qui doit être entériné en vue d'être envoyé à temps utile à Genève pour que la RDC soit éligible à ce programme.
Effectivement. Mais ce qui est plus urgent maintenant, c'est que le président de la République signe la lettre des candidatures.
Jean-Claude Toumba, bonjour.
Bonjour Walter.
Présentement à Bounia, pouvez-vous nous dire comment l'électricité est distribuée en Ituri de façon générale et particulièrement à Bounia?
Oui Walter, en Ituri, il n'y a que l'office de mine d'or de Kilomoto qui a le monopole de la distribution de l'électricité. Et cela depuis les années 1920. Nous allons entendre l'ingénieur Kisembo Kiska, l'actuel directeur de Kilomoto, qui nous fait une brève historique de cette entreprise.
Kilomoto dispose de 4 centrales hydroélectriques et il y a 3 centrales ici au sud et une centrale au nord. Au sud, nous avons la centrale de Solenyama 1, construite depuis 1923, Solenyama 2, construite en 1923 et Budana, construite en 1940.
Voilà, autant de centrales hydroélectriques, quand même assez vieilles. Quel est l'état des lieux actuels pour ces centrales hydroélectriques, Jean-Claude?
À ce que je sache, Walter, toutes ces centrales ne sont pas opérationnelles. Néanmoins, si on a de l'électricité à Bounia, elle est fournie par la centrale de Boudana. Elle est située à plus ou moins 13 km à l'ouest de la ville de Bounia. L'ingénieur Kisembo nous donne la carte postale de ces centrales.
La centrale de Boudana dispose de 4 turbines. Une turbine de 6500 kVA et deux petites turbines de 3500 kVA chacun. La turbine de 6500 kVA est au service depuis 1988. Elle a connu un incendie au niveau de l'alternateur. La turbine numéro 1 et numéro 2 de 3500 chacun, cette turbine a été révisée en 1989 jusqu'à 1990 par les ACE. Après la révision depuis 1990 jusqu'à ce jour, ces deux turbines étaient en service. Au moment où je parle ici, la turbine numéro est tombé en panne. Et actuellement, il n'y a qu'une seule turbine qui fonctionne avec sa puissance de 2400 kW. On n'arrive pas à alimenter tout le monde. On doit alimenter Mongualou, là où Achaté de s'installer. On doit alimenter la ville de Bounia via SNEL. On doit alimenter les environs de la ville de Bounia, là où Kilomoto fait la distribution. Ils ont musipé les environs. On doit alimenter Kassény. Mais pour le moment, on n'arrive pas à le faire parce que la ligne a connu des problèmes. On a volé le conducteur.
Voilà, autant de problèmes qui sont évoqués. Donc, Bounia qui est alimenté en électricité à partir d'une centrale qui appartient à l'Okimo. Comment se fait cette distribution, Jean-Claude?
Oui, Walter, à Bounia, c'est la SNEL, la Société Nationale d'Électricité, qui distribue de l'électricité aux consommateurs. De l'électricité lui fournie par l'office de mine d'or de Kilomoto, Okimo. Mais malheureusement, avec les 1500 kW de l'énergie qu'elle reçoit de Kilomoto, elle ne parvient pas à couvrir les besoins de ses 2000 abonnés. En plus de cela, le bricolage des cabines électriques perpétrées par certains abonnés occasionne les perturbations du courant observées dans certains quartiers de la ville de Bounia. Charles Kamalebo, chef de centre SNEL Bounia, nous explique.
Et la centrale de Boudana n'arrive pas à répondre positivement, y compris notre réseau aussi, vous savez. Aujourd'hui, la ville de Bounia, s'il faut parler en termes de nombre d'habitants, c'est plus de 200 000. Vous savez, avec la modernisation aussi, tout le monde a besoin de l'électricité chez lui pour le ménage, l'exploitation, tout ça, vous voyez, ça fait pour. Nous sommes les partenaires de l'Okimo. Okimo produit l'énergie et nous achetons et nous revendons auprès de nos abonnés. Bon, vous savez que s'il faut parler de la chute des tensions, et notre réseau d'abord, c'est un réseau qui date de longtemps. Et jusque là, n'a jamais réhabilité ces réseaux depuis l'époque coloniale. Et en plus de ça, ce sont eux-mêmes, la majorité des abonnés, qui sont d'abord aussi responsables de cette surdétention. Puisque malgré la vétusté de matériel, nous, quand nous intervenons, eux aussi viennent intervenir d'une façon pirate, voilà ce que ça fait. Ils détruisent nos équipements. Et c'est comme ça, ils constatent ça. Mais malheureusement, ils ne veulent pas comprendre quand nous leur expliquons.
Voilà, autant de problèmes. Dites-nous, Jean-Claude, qu'est-ce qu'il faut faire pour satisfaire la demande des abonnés et résoudre tous ces problèmes?
Pour résoudre ce problème, Walter, il faudra que la centrale hydroélectrique de Boudana, de l'Okimo, puisse produire plus d'énergie. Chose impossible pour le moment, vu la vétusté de ses équipements. Comme conséquence, il est difficile pour le moment d'initier de grands projets de développement dans la région.
Et que compte faire l'Okimo?
Selon le directeur de Kilomoto à Bounia, des projets de réhabilitation de cette centrale de Boudana ont été soumis à plusieurs ONG internationales. Parmi elles, seule pour le moment, l'ONG CK a donné une suite favorable. Les travaux de la réhabilitation de la ligne haute tension de 45 km ont commencé depuis mardi 8 janvier de cette année. Astrid Devallon, le responsable de CK en Ituri, explique.
Le projet CESA, financé par USAID, va s'occuper de rétablir les lignes électriques haute tension entre la centrale de Boudana et Kassény et Chomia, c'est-à-dire que toutes les communautés sur le parcours auront accès à l'électricité, ce qui n'est plus le cas depuis 1998. Nous exigeons que les communautés s'impliquent afin de pérenniser les projets. Il s'agit pour les communautés d'aider à déblayer en fait tout le trajet, puisque depuis toutes ces années, les arbres ont poussé et empêchent le passage des fils électriques. Et ensuite, les électriciens de Kilomoto vont pouvoir retendre cette ligne haute tension. Les matériaux sont complètement disponibles, c'est-à-dire que nous avons pu avoir des câbles de cuivre qui sont arrivés et nous allons donc installer tous ces câbles de cuivre entre Boudana et Kassény. Nous avons donc 3 fois 45 km de câbles de cuivre puisque la distance entre Boudana et Kassény-Chomia est de 45 km. C'est un projet vraiment important au niveau financier et c'est pour cela qu'il faut que les communautés préservent ces fils pour que ces fils à l'avenir ne soit plus jamais volé comme ça a été le cas dans le passé.
Voilà, et c'est à ces prix-là que les bonéanthropes ou les étudiants pourront avoir de l'électricité. Claude Tomba, merci beaucoup pour ces informations. D'ici là, qu'on puisse recevoir peut-être des invités, des éclaircissements sur les solutions à apporter. Nous vous remercions d'avoir été en ligne avec nous et espérons que, enfin une question peut-être, vous avez eu du courant cette nuit au moins, Jean-Claude.
Oui, il y en a, mais dans quelques quartiers seulement, Walter.
Ah, dommage. Donc, attendons que les projets CSA puissent venir à bout. Et peut-être que le directeur général adjoint de l'OCUMO, qu'on va avoir tout à l'heure comme invité, nous donnera beaucoup plus de réponses. Merci et bonne journée à Bounia.
Merci, Walter, et surtout merci à Yana.
Monsieur Mutombo Kalubi, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes directeur général adjoint de l'OCUMO, office Kilomoto. C'est vous qui êtes propriétaire des centrales hydroélectriques qui alimentent une grande partie de l'Ituri et Bounia en particulier. Il y a des problèmes dans la production de l'énergie. Est-ce que vous pensez pouvoir résoudre ces problèmes?
Ah oui, nous pensons à ces problèmes, d'autant plus que les déficits en énergie se posent depuis plusieurs années, bien longtemps avant la guerre. Depuis longtemps, nous cherchons à réhabiliter cette centrale pour adapter ses capacités aux besoins, à la demande de l'industrie et des ménages.
Comment allez-vous faire?
Allô?
Comment allez-vous faire?
Bon, tout d'abord, il faut nous approprier cette centrale complètement parce que suite à la convention minière, cette centrale était sous la gestion de la CIMIN. Nous sommes en train d'évoluer vers le retour de cette centrale dans la gestion, dans la réhabilitation comme dans le développement.
Mais oui, concrètement, parce que nous avions appris que l'OCUMO est en partenariat avec une société qui s'appelle Ashanti Gold Mines, est-ce vrai?
Oui, justement, nous sommes en partenariat avec cette société-là pour l'exploitation minière. Et c'est dans le cadre de ce partenariat qu'il avait été convenu que cette société s'occuperait de la maintenance. Mais nous avons constaté que depuis 1993, l'année où il y a eu sinistre sur cette centrale, cette société s'est occupée de ses propres besoins. Or, maintenant, dans nos concessions, nous allons avoir beaucoup de partenaires qui vont exprimer des besoins industriels importants. Il faudra alors que la réhabilitation, la gestion s'inscrive dans cette optique-là.
Mais plus de 10 ans après, on sait très bien que Ashanti Goldmines avait promis notamment d'appuyer ce secteur énergétique sans lequel l'OCUMO ne peut pas fonctionner. Pourquoi après plus de 10 ans ça n'a pas été fait? Est-ce que les termes du contrat le permettent?
Disons que tant que nous étions dans la convention minière, et que Kilomoto avait lui-même des problèmes, il était impossible de soulever ce problème de la gestion de la centrale. Et nous espérions que Kimine, dans son plan de développement, avait pensé aussi à réhabiliter cette centrale. Nous avons constaté que il fallait alors que nous faisions nous-mêmes. Nous sommes en difficulté sur le plan financier, alors nous avons contacté des partenaires qui accepte de nous aider sur la réhabilitation et le développement de la centrale.
Mais si ces partenaires arrivent et qu'ils n'exécutent pas la part du contrat selon les termes des références, on se demande c'est quel type de partenariat que vous avez.
Oui, mais il faudra que Kimine, nous n'avons vu nulle part où Anglo-Gold a inscrit le développement de cette centrale dans son étude de faisabilité qui est en cours. Nous ne croyons pas que avec le programme pour ces deux premières années, le programme de Ashanti, c'est l'exploration. Et nous ne voyons pas dans 2 ans AngloGold s'intéresser à la réhabilitation de la centrale. Or, il y aura bientôt dans notre concession beaucoup de demandes. Alors, il faut que nous prenions le devant.
Est-ce que vous pensez qu'il faut, il faut faire un avenant au contrat qui vous lie à vos partenaires pour inscrire spécifiquement cette question, cette problématique de la réhabilitation des centrales hydroélectriques?
Mais la problématique de cette centrale, c'est de pouvoir satisfaire les besoins industriels comme les besoins domestiques. Or, dans l'état actuel, avec cette contrainte du contrat, nous ne voyons pas la centrale se réhabiliter et se développer. Nous-mêmes, nous avions déjà commencé vers les années 88-89, nous avions déjà commencé à réhabiliter la centrale grâce à un prêt belge et grâce à l'ABAD, nous avons réhabilité. Mais il est venu ce sinistre qui s'est déclaré en 93 et qui a dévasté la centrale. Il y a eu incendie à la centrale. Au lieu de trois groupes qui doivent fonctionner, nous n'avons qu'un seul groupe qui fonctionne là-bas. Il faut y penser très sérieusement. D'ailleurs, je viens de l'Afrique du Sud où nous avons relancé Siemens qui a accepté de faire l'expertise de cette centrale pour nous donner à peu près une idée exacte sur les travaux à faire.
Est-ce que ça veut dire qu'en République démocratique du Congo, on n'a pas l'expertise nécessaire pour ce genre de travaux?
Mais justement, il y a l'expertise est là. Vous avez d'ailleurs une commission qui fonctionne à Bounia sur place et qui est en train justement d'élaborer les termes qui vont constituer les cahiers de charges qui vont être présentés. Ils vont le compléter parce que c'est eux qui vont fournir les services de réhabilitation.
On sait qu'à Bounia notamment, c'est la SNEL, Société Nationale d'Électricité, qui distribue le peu d'énergie qui est encore fourni aujourd'hui. Quel est le type de contrat qui vous lie, vous, au Kimo, à la SNEL?
Bon, avec la SNEL, nous avions un contrat commercial. Donc, nous livrions de l'électricité qu'elle distribuait dans la ville de Bounia. Mais ce contrat n'a pas été exécuté à notre satisfaction. Nous avons perdu, il y a un litige. Il faudra d'abord vider ce litige-là. Mais avec la SNEL, nous continuons à avoir une collaboration.
En quoi consistait ce litige?
Ce litige, c'est-à-dire que l'électricité livrée à la SNEL est distribuée dans la ville de Bounia, les facturations depuis 1995 n'ont jamais été payées. Il y a un litige, il y a donc des factures à recouvrer.
Est-ce que vous pensez qu'avec ces factures, le Kimo peut ne fût-ce que réaliser l'entretien de quelques pièces au niveau de la centrale?
Oui, mais justement, nous avons un montant qu'on attendait là-bas. Ils nous ont proposé une compensation. Bon, nous voulons que cette compensation se fasse lorsque nous connaîtrons l'état technique de la centrale et du matériel que la SNEL veut nous laisser.
Alors, peut-être la dernière question, dans combien de temps ces centrales des Lokimo pourront-elles tourner à plein moteur, comme on dit?
Ah bon, de toute façon, vous voyez qu'il y a un seul alternateur qui fonctionne là-bas. C'est moins que la capacité de trois alternateurs. Il faut refaire, déjà remettre en bon état le seul alternateur qui fonctionne là-bas et trouver le financement pour réhabiliter les deux autres alternateurs parce que les alternateurs qui avaient été réhabilités, c'était de petits. Les grands restaient dans l'état où ils se trouvaient avant la réhabilitation de 1988.
Mais d'où viendra le financement pour ces travaux?
Oui, mais le financement, il faudra le chercher. Dès qu'on aura l'étude technique, je crois qu'on pourra trouver le financement.
Avec l'exploitation de l'or et d'autres minéraux que vous trouvez dans les carrières, est-ce que ce n'est pas possible?
Non, l'exploitation des minéraux, là aussi, il y a des problèmes. Il faut, tout a été détruit. Hein. Vous savez que tout a été détruit. Vous voyez à Mungwalu, à Kilo, tout a été détruit. À Moto, tout a été détruit. Il faut faire un effort pour d'abord reprendre la production. Et c'est ce que nous faisons maintenant. Nous pourrons avoir une petite usine dans deux ou trois mois qui va produire l'or à Moto, mais ce ne sera pas suffisant pour partager entre les coûts de production de l'or et la maintenance de la centrale.
Vous aurez quel tonnage au minimum?
S'il vous plaît?
Le tonnage minimum de la prochaine production d'ici deux mois, ça sera combien?
Bon, nous espérons que dès que nous aurons la petite usine pourra être fonctionnelle au mois de mai. Et à partir deux mois après, nous pourrons atteindre les 20 kilos, parce que pour le moment, nous ne faisons rien. On peut atteindre 20 kilos par mois.
Voilà, merci beaucoup, Monsieur Mutombo Kalubi. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de l'Okimo. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et vous souhaite plein succès dans la relance des activités à l'Okimo.
C'est moi qui vous remercie.
Merci, au revoir. Au Kabi Action, c'est terminé pour maintenant. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été fidèle jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain, 9h02, heure de Kinshasa, pour de nouvelles aventures dans vos vies. Ici Walter Molondi, au micro de Au Kabi Action.